Chapitre 20. Les petits enculés de leur sale race, gronda Jim, les yeux hors de la tête. Si je les chope! Les assaillants avaient disparu après avoir bombardé la baie vitrée de morceaux de glace et criblé le verre triple épaisseur d'impacts en forme d'étoile. Alice avait entrevu leurs visages avant qu'ils ne s'évanouissent dans les ténèbres. Des masques grimaçants de démons. Franks avait eu raison, une fois de plus, en tentant de persuader les membres de l'Arche de s'armer pour repousser les assauts qui ne manqueraient pas de se produire. Des hordes tourmentées par le froid et la faim entreront le pays, gouvernées par leurs seuls instincts animaux. Les survivants ne respecteront aucune règle. On ne pourra pas négocier avec eux. Il faudra les tuer, si on ne veut pas être tué. Les autres avaient vigoureusement protesté, excepté Vito. Alice s'était rangée à leur côté, parce que comme tous les Occidentaux, l'idée même de la mort l'horrifiait. Réfugiée derrière le paravent pratique de la non-violence, alors que, comme les autres, elle nourrissait en son sein des haines et des colères secrètes, elle regrettait à présent de ne pas disposer d'un pistolet ou d'un fusil. La peur était telle qu'elle en arrivait à apprécier la présence du Grax, dont elle avait mille fois souhaité la disparition les jours précédents. Muni d'un couteau, celui-là même avec lequel elle avait tenté de le tuer, il s'était posté devant la baie vitrée. Il ne s'était pas recouché. Prostré près du poêle, Zoé lançait des regards anxieux en direction de la cour intérieure. Elle ressemblait à une petite fille perdue dans un monde soudain trop vaste pour elle. Elle était redevenue la Zoé de 4 ou 5 ans, terrorisée par le moindre insecte ou le plus petit souffle de vent. Alice se demanda si Jim ne l'avait pas. Non. Elle l'aurait remarqué. Elle était parvenue à lire quelques lignes des écrits de sa fille sur le cahier qu'elle planquait dans le tiroir de sa table de chevet. Des mots d'adolescente, sans réel intérêt. Alice en avait été presque déçue. Elle s'était attendue à mieux de la part de Zoé. Les textes qu'elle avait lus d'elle dans le cadre de la scolarité ou à d'autres occasions avaient toujours été piquants, originaux, bien tournés. Ses institutrices, avant son retrait de l'école, lui avaient prédit un bel avenir dans le domaine de l'écriture. Mais il n'y avait plus d'avenir pour personne sur Terre. Seulement cette obscurité et ce froid, d'où étaient surgis comme des démons de leur enfer, les faces monstrueuses des assaillants. Comment avait-il réussi à s'introduire dans la cour intérieure? Il n'avait sans doute rencontré aucune difficulté à franchir la douve gelée, mais les murs étaient truffés de tessons de bouteilles et de lames tranchantes. À sa connaissance, aucun passage souterrain ne reliait l'extérieur et la maison. Le bunker n'était certainement pas aussi hermétique que l'avaient prévu Franks et les autres. Des enragés, poussés par la faim, trouveraient un jour ou l'autre une brèche. Les 4 derniers membres de l'Arche ne dormiraient plus jamais tranquilles. Combien lui paraissait dérisoire désormais ses démêlés avec le Grax. Elle détestait être traitée en esclave domestique et sexuelle, elle s'inquiétait sans cesse pour ses enfants. Mais la vision furtive de ses masques de cauchemar avait relégué au second plan ses terreurs et ses indignations quotidiennes. Ce qu'elle avait vu dehors, c'était la férocité incarnée. Elle préférait ne pas penser au sort que ces monstres leur réserveraient s'ils tombaient entre leurs griffes. Théo était resté assis en tailleur sur son lit, plongé dans une profonde méditation, la tête légèrement penchée vers l'avant, les yeux clos, probablement réfugié dans ses mondes imaginaires, comme chaque fois qu'il se heurtait à une difficulté physique ou émotionnelle. Lui n'avait connu qu'une seule maîtresse, en grande section maternelle, et elle n'avait jamais su comment l'aborder. Elle disait de lui qu'il n'était pas un enfant ordinaire, qu'elle n'en avait pas trouvé le mode d'emploi, qu'il devrait sans doute consulter un pédopsychiatre. Franks s'y était catégoriquement opposé. Pour lui, la psychiatrie, datant du milieu du XXe siècle, n'était pas adaptée aux enfants du XXIe. Il pensait que les nouvelles générations muteraient et sortiraient enfin du cadre étriqué dans lequel les hommes étaient enfermés depuis des millénaires. Confier Théo à un pédopsychiatre revenait à demander à un chasseur de la préhistoire de comprendre et de juger un individu moderne. Après le grand bouleversement, il y aurait, selon Franks, autant, voire davantage, de différences entre les nouvelles générations et les anciennes qu'entre les hommes préhistoriques et les humains de l'âge technologique. Les bouleversements débouchaient, toujours d'après ses théories, sur les grandes mutations. Et celle-ci serait la plus importante, la plus spectaculaire de toutes. En quoi consisterait-elle? En un nouveau langage, en de nouvelles perceptions, en une nouvelle relation avec la matière. Alice lui avait demandé à quelle source il puisait ses certitudes. Un mélange de convictions personnelles et de statistiques basées sur les données historiques, avait-il répondu. Il ne croyait pas à la transformation progressive théorisée par Darwin et ses disciples, mais aux ruptures, au bond soudain ou au saut en arrière, qui correspondait aux prises de conscience, aux façons nouvelles d'appréhender ou de rêver le monde. Théo, comme un grand nombre d'autres enfants, était l'un des premiers maillons de cette nouvelle chaîne d'évolution. Alice vint s'asseoir à côté de son fils qui ne parut même pas remarquer sa présence. Le vent s'était calmé. Un silence angoissant se déployait dans le feu de Dieu, absorbant le ronronnement du poêle. Le moindre craquement, le moindre murmure prenait une résonance inquiétante. Debout devant la baie vitrée, le couteau le long de la jambe, le Grax surveillait la cour intérieure. Alice aurait dû descendre à la cave pour effectuer les vérifications quotidiennes et prendre des réserves de nourriture. Elle n'en avait pas le courage. Elle prit son fils par les épaules et le serra contre elle. « Ça va, Théo ?» Il ne lui répondit pas, ni ne rouvrit les yeux. Il paraissait immergé dans une catalepsie profonde d'où il n'était pas certain de revenir. Saisie de panique, elle le secoua avec rudesse. « Théo ! Théo !» Il finit par relever la tête et entr'ouvrit les paupières. Elle crut un instant que la vie avait déserté son corps, puis, peu à peu, les yeux clairs de Théo recouvrèrent leur lumière habituelle. « T'aurais pas dû me déranger, maman. » Sa voix semblait surgir de profondeurs insondables, comme si sa bouche était l'entrée d'une profonde caverne. « C'est pas le moment de dormir, Théo. »
« Je dormais pas. »
« Qu'est-ce que tu faisais alors ?»«
J'étais avec eux. »
« Eux ?»«
Ceux qui veulent entrer dans la maison. »
Alice dévisagea son fils, essayant de déceler des traces de folie sur ses traits chiffonnés. « Qu'est-ce que tu racontes encore ?» Théo se renfrogna.
« J'étais sûr que tu me croirais pas. »
Alice non plus n'avait pas le mode d'emploi de son fils. Elle chassa son irritation naissante d'une brève expiration. « C'est simplement que je ne comprends pas ce que tu dis. Explique-moi. » Théo referma les yeux et demeura un moment la tête baissée, comme pour renouer avec le fil brisé par l'intervention de sa mère.
« Je les vois, »
dit-il dans un souffle.
« Ils sont sur la glace. Ils sont six. Il y a deux filles avec eux. Ils essaient de passer par une fenêtre, par terre. Une de celles qui ont des barreaux. »
« Un soupirail ?» Théo haussa les épaules en gardant les yeux clos.
« Je sais pas comment ça s'appelle. »
Alice recensa mentalement les soupiraux de la maison. Trois. Tous les trois donnaient sur la cave, pour lui assurer une aération constante. Elle se souvint que Franks et les hommes de l'Arche avaient scellé dans les murs des barreaux métalliques épais et torsadés, en principe inébranlables. Les intervalles resserrés entre chacun d'eux n'autorisaient pas le passage d'un corps humain, ni même celui d'un renard ou d'une fouine.
« Est-ce que tu vois autre chose ?»« Ils ont arraché un barreau. Ils essaient d'en dégommer un autre. »«
Impossible ! Ton père et les autres ont coulé une telle épaisseur de ciment que... » Elle s'interrompit. Le gel avait pu faire éclater les scellements. La soudaineté avec laquelle était descendue la température avait peut-être entraîné des réactions imprévues dans les matériaux. Une boule d'angoisse gonfla dans la poitrine d'Alice et l'empêcha de reprendre sa respiration. « Il y a trois fenêtres, » reprit-elle d'une voix hachée. « Est-ce que tu peux dire devant laquelle ils se trouvent ?»«
Je vois rien d'autre que le mur et la glace, »
répondit Théo.
« Il y a la nuit et le brouillard tout autour.
Essaie, s'il te plaît, essaie de trouver un point de repère. » Théo marqua un deuxième temps de silence, et le front plissé, les traits crispés, les doigts recroquevillés, il se livra à une exploration intense, presque douloureuse.
« Ils ont eu un deuxième barreau. Il y en a un qui essaie de passer. Il n'y arrive pas. »
« Rien d'autre ?» Nouveau temps de silence.
« Il y a une sorte de croix sur le mur. »
Alice s'efforça de rétablir un minimum de cohérence dans ses pensées tourbillonnantes. Théo parlait sans doute d'une croix métallique de renforcement, comme il en existait sur la plupart des vieilles bâtisses. Elle ne se souvenait pas en avoir remarqué sur les murs épais du feu de Dieu, mais elle n'avait jamais vraiment prêté attention à ce genre de détails. Quoi d'autre ?
Rien. Rien.
Elle crut se remémorer une forme sombre dans le crépi au-dessus d'un soupirail. Une croix, peut-être. Plutôt un X en partie recouvert d'enduit. Mais lequel des trois soupiraux ? Pas celui qui donnait sur la petite pièce du générateur, en tout cas. On avait refait entièrement la façade de ce côté-là, et on avait remplacé le crépi traditionnel par une épaisse couche de béton gratté teintée de jaune.
« Le troisième barreau commence à bouger, »
ajouta Théo.
« Ils vont pas tarder à l'arracher. »
Les deux autres soupiraux avaient été percés en bas du mur de l'ancienne grange transformée en logement, distants l'un de l'autre d'une vingtaine de mètres. « Tu es sûr de toi, Théo ?» Il ne répondit pas, concentré sur ses visions. Elle se leva et courut rejoindre le Grax devant la baie vitrée. D'après Théo, ils essaient de passer par un des trois soupiraux qui donne sur la cave. « Comment il peut savoir ça, lui ? Il a des sortes de visions. On devrait aller voir. » Les yeux de Jim s'arrondirent. Une moue lui plissa les lèvres. « T'es complètement dingue, y a plus personne pour surveiller la course si on descend. » Je sens que Théo a raison. Normal, t'es aussi taré que lui. Si j'avais une arme, j'irais moi-même, on n'a qu'à descendre le volet métallique devant la... Arrête de faire chier! Y a une hache en bas, t'as qu'à t'en servir si le cœur t'en dit. Moi, je bouge pas d'ici. Alice soupira. Le seul homme de la maison était non seulement un prédateur, un tyran domestique, mais un crétin, incapable d'appréhender l'urgence de la situation. Elle fonça par la cuisine vers l'entrée de la cave. Gouvernée par son seul instinct de survie, elle avait franchi la frontière de la terreur. « J'ai un avec toi, maman. » Théo s'engouffra à son tour dans la cuisine. Elle lut une telle détermination dans ses yeux qu'elle ne chercha même pas à l'en dissuader. Elle le vit tirer un couteau du socle de bois. Frêle, malingre, il n'aurait pas la force de s'opposer aux assaillants, pas davantage qu'elle, mais il n'avait pas le choix. Ils dévalèrent les marches de l'escalier. Des coups sourds ébranlaient l'obscurité. Ils provenaient du fond de la cave, sans doute du soupirail percé à l'autre extrémité du mur de la grange.
« Tu vois quelque chose, toi ?»
chuchota Théo.
« Pas de lumière, surtout. Il faut pas leur donner l'alerte. »
répondit Alice à voix basse. Ils s'enfoncèrent avec prudence dans l'obscurité. Alice récupéra à tâtons la hache suspendue à l'un des piliers de soutènement. Elle s'en servait tous les deux ou trois jours pour fendre du bois, le Grax refusant d'effectuer une besogne habituellement dévolue aux hommes. Elle avait l'habitude de la manier, malgré son poids et la longueur de son manche gainée de plastique jaune. Ils gagnèrent le fond de la cave, louvoyant entre les étagères et autres obstacles. Les coups continuaient de résonner, de plus en plus forts, de plus en plus proches. Ils percevaient maintenant les murmures et les ahans des assaillants, les crissements du métal qu'ils tentaient d'extirper de sa gangue de ciment. Des courants d'air glacé s'enroulaient autour des jambes d'Alice, qui tremblaient sous sa triple épaisseur de pull et sous les deux paires de collants passés sous son jean. Ses doigts nus s'engourdissaient et peinaient à serrer le manche de la hache. Derrière elle, le souffle de son fils, âgé de 9 ans, contraint de défendre sa vie contre des créatures qui n'avaient plus rien d'humain. Ils s'arrêtèrent à 3 ou 4 mètres de l'ouverture, qui découpait dans la pénombre un demi-cercle légèrement plus clair et partiellement rayé. Des mouvements derrière les barreaux. Les assaillants étaient sur le point de parvenir à leur fin. Alice leva la hache et s'approcha d'un pas chancelant à moins 1 mètre du soupirail. Sa seule chance, la seule chance de Théo, la seule chance de Zoé, serait d'abattre sans pitié le premier d'entre eux qui passerait la tête entre les barreaux.